À tourner dans la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 37, Genèse 37. Alors, pendant que vous tournez, simplement vous rappeler que la dernière fois que nous avons examiné la vie de Joseph, nous avons vu qu'il avait été trahi par ses propres frères, qu'il avait été vendu pour 20 pièces d'argent, soit pour un peu moins que 100 euros, et ce qui correspondait à l'époque au prix d'un esclave estropié. Et les Ismaélites vont amener Joseph et vont le vendre en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. C'est ce qu'on apprend dans le chapitre 37, le verset 36. Et j'aimerais simplement que ce matin, on puisse se mettre à la place de Joseph pendant un instant. Vous avez 17 ans. Vous êtes le fils favori d'une famille de 12 garçons. Votre père vous a choisi pour que vous soyez le chef de la famille. Et il vous a donné une magnifique tunique de différentes couleurs pour confirmer ce choix. Vous êtes sur le chemin qui mène au pouvoir et vous vous apprêtez à devenir la personne la plus importante de votre famille. Puis, dans le temps de le dire, tout s'écroule. Vous êtes dépouillé de votre tunique. Vous êtes trahi par des gens qui sont supposés vous aimer. Vous êtes séparés de votre père, vous êtes ensuite vendus comme esclave et amenés loin dans un pays étranger. Imaginez l'humiliation subie par Joseph, qui se retrouve sur la place d'un marché en Égypte, vendu comme un esclave lors d'une vente aux enchères. Imaginez les mensonges que Satan doit avoir chuchotés dans les oreilles de Joseph. Imaginez comment Joseph a dû se sentir lorsque les chameaux franchissaient la dernière colline, et que les merveilles de l'Égypte s'ouvraient devant lui sur les plaines de Giza. Cela a dû être un grand choc culturel pour ce jeune homme venant de la campagne. En apparence, les circonstances n'auraient pas pu être pires pour Joseph, mais cette période difficile n'était que de simples pierres disposées le long de son chemin, et ce, pour le conduire un jour à connaître une gloire encore plus grande. On aurait pu penser que tous les songes de Joseph avaient été brisés, mais le Dieu qui révèle dans un premier temps les songes travaillait dans les coulisses pour s'assurer que tout ce qu'il avait prévu s'accomplirait en son temps. Et à travers toutes ces difficultés que traverse Joseph, il y a une parole que nous retrouvons dans Genèse chapitre 39, verset 2, qui devrait tous nous encourager à garder nos yeux sur celui que nous ne voyons pas et en qui nous avons mis tous nos espoirs. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. J'aimerais vous poser une question comme ouverture pour ce message ce matin. Avez-vous l'assurance que l'Éternel est avec vous ce matin?
Amen.
Je ne parle pas d'une prospérité financière ici, je parle d'une prospérité spirituelle. L'Éternel était avec Joseph. Et Joseph prospéra. Il est bon de remarquer que Joseph était un homme qui avait appris à pratiquer la présence de Dieu dans sa vie. Le livre de la Genèse, frères et sœurs, est un livre merveilleux, mais permettez-moi de partager un fait étonnant. 25% du livre de la Genèse est consacré à Joseph. C'est un personnage extrêmement important dans l'Ancien Testament. 25% du livre de la Genèse est consacré à Joseph. Il y a 50 chapitres, 50% c'est 25, 25% 12 chapitres et demi qui sont consacrés à Joseph, où le nom de Joseph apparaît dans la Genèse. C'est un personnage extrêmement important, d'où la première fois qu'on a regardé Joseph, on a dit que Joseph est vraiment le portrait de Jésus. J'aimerais vous rappeler cette grande vérité ce matin, frères et sœurs. Notre Dieu est toujours avec ceux qui lui appartiennent. Il est présent lorsqu'ils traversent les épreuves afin d'accomplir son plan dans leur vie. Et il va les utiliser au moment voulu pour ramener ce monde perdu vers lui. J'aimerais donc examiner avec vous ce matin la vie de Joseph dans les premiers moments de sa vie d'esclave. J'aimerais regarder les différents événements qui démontrent clairement que Dieu était avec lui. Parce qu'il y a un refrain qui revient régulièrement dans la vie de Joseph et qui dit ceci, « Et Dieu était avec lui, et Dieu était avec lui, et Dieu était avec lui. » Pendant que nous examinons ces vérités, je vous invite à vous rappeler que ce que le Seigneur a fait pour Joseph, il le fera aussi pour vous. Si l'Ancien Testament nous a été laissé à titre d'exemple, ce n'est pas exclusif à un personnage. Ce que le Seigneur a fait pour Joseph à son époque, il est encore capable aujourd'hui de le faire pour vous. Il est encore capable aujourd'hui de manifester sa présence et sa puissance à travers ses enfants. Amen. Maintenant, est-ce que notre vie correspond ce matin à celle de Joseph? C'est la question qu'on peut se poser. Et c'est la question qu'on peut se poser tout au long de ce message. Est-ce que ma vie reflète vraiment le comportement de Joseph lorsque survient une épreuve, lorsque je vis des difficultés? Est-ce que ma vie, mon attitude, ma réaction reflète celle de Joseph? Permettez-moi de partager avec vous les différentes façons dont Dieu a béni ce jeune homme. Chapitre 37, verset 36. Comme je viens de le mentionner, tout semblait s'écrouler dans la vie de Joseph. Pourtant, si vous vous arrêtez pour examiner les faits, il est évident que la vie de Joseph était entre les mains de Dieu. Pensez à tout ce qu'il a dû faire face. Il y a beaucoup trop de choses qui sont survenues en même temps pour que ce soit le fruit du hasard. Genèse 37, versets 21-22. L'intervention de Ruben pour sauver la vie de Joseph. Genèse 37, versets 26-28. Judas qui a eu l'idée de vendre Joseph comme esclave, alors que, comme, je ne dirais pas comme par hasard, mais les Israélites passaient au même moment. Genèse 37, 36, Joseph qui, dès son arrivée en Égypte, fut vendu à Potiphar, qui était l'homme de confiance de Pharaon et chef de la garde royale. Frères et sœurs, Dieu avait mis la table comme elle avait besoin d'être mise, de telle sorte que Joseph est arrivé exactement là où il avait besoin d'être, au moment même où il avait besoin d'être là. Dieu y avait donné rendez-vous. Et Dieu vous a donné rendez-vous aussi. Dieu a un plan pour vous, frères et sœurs. Peut-être pas le même plan que Joseph, mais Dieu ne vous a pas sauvé pour faire de vous des membres inutiles dans le corps de Christ. Chaque membre dans le corps de Christ a son utilité. Et Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour vous, frères et sœurs. Vous dites « Amen » à ça. Dieu a un plan pour vous. C'est important. Le diable vous dit que vous êtes des bons à rien, que vous êtes des minables. Mais Dieu dit « J'ai un plan pour toi. En Jésus-Christ, j'ai quelque chose de merveilleux pour toi. » Joseph pouvait être un esclave, mais il était en sécurité parce que Dieu veillait sur lui. Il était séparé de son père biologique, mais son père céleste était avec lui et l'avait déjà précédé en Égypte, frères et sœurs. Vous pouvez voir à quel point Dieu contrôle les événements lorsque vous regardez les actions des personnes impliquées dans cette histoire. Les frères de Joseph, les commerçants ismaélites, les Potiphar servaient tous leurs propres intérêts égoïstes. Les frères de Joseph voulaient se débarrasser de lui, de ses songes. Les Ismaélites savouraient déjà le profit qu'ils en tireraient en vendant Joseph comme esclave. Et Potiphar, il cherchait à faire une bonne affaire lui, en achetant un esclave qui ne lui coûterait pas trop cher. Mais ce que ces gens ne réalisaient pas, frères et sœurs, c'est qu'ils étaient tous en train d'accomplir le plan de Dieu, le plan que Dieu avait prévu pour Joseph. Et peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, si vous subissez des persécutions à cause de votre foi, dites-vous que Dieu utilise ceux qui vous persécutent pour accomplir le plan qu'il a prévu pour vous dans votre vie. Là, je n'ai pas un gros amen là-dessus, hein? Oui. Lâchez-moi un amen, là, pour m'encourager à continuer. Oui. On n'en a rien à cirer des épreuves. On voudrait être sauvé et être épargné de toutes les promesses que Dieu fait dans sa parole. Heureux êtes-vous si vous êtes persécuté à cause de mon nom, car le royaume de Dieu vous appartient. Heureux êtes-vous si on dit du mal de moi, de vous, à cause. Heureux êtes-vous si on dit du mal à cause de vous, à cause de moi. Heureux êtes-vous. Jacques, dans chapitre 1, versets 1 et 2, dit: soyez très heureux pour les épreuves que vous subissez. Soyez très heureux parce qu'elles ont pour but de développer votre patience. Et c'est vrai qu'on est impatient, hein, par nos réactions, hein, différentes. Hein. quand quelqu'un nous tombe sur les nerfs, des fois, ça prend pas de temps que la langue dégaine. Hein? Et on raconte, on dit des choses qu'on voudrait rattraper, hein, mais quand c'est sorti, c'est trop tard. Hein? Ça a été entendu, c'est perdu, hein, pour l'éternité. Quoi. Ouais. N'est-il pas réconfortant de savoir que Dieu peut utiliser des gens sans scrupules pour accomplir son plan? N'est-il pas encourageant de savoir que tous les événements que nous vivons font partie du plan que Dieu a pour vous? Quand je me suis converti, jamais j'aurais pensé que Dieu m'aurait envoyé en Belgique. À travers toutes les petites situations que Dieu m'a fait vivre, Dieu m'avait déjà précédé en Belgique. Dieu avait déjà préparé une famille pour me recevoir. Parce que Dieu, c'était dans son plan que je vienne en Belgique. Et je l'ai déjà dit, les anciens le savent, je vais le répéter pour les nouveaux, la seule chose que je ne voulais pas faire dans ma vie, c'est être pasteur. Je repoussais toujours cet appel. J'aimais mieux m'occuper des enfants. Et Dieu m'a dit clairement, prière, tu veux t'occuper des enfants, tu vas être complètement à côté de mon plan, à côté du plan que j'ai pour toi. Je vais travailler ta vie pour que tu acceptes de tout ton cœur de devenir un pasteur, de répondre à cet appel. Et pourquoi je ne voulais pas être pasteur? C'était égoïste, hein? Parce que je me disais, c'est tellement compliqué de travailler des êtres humains. C'est bien moins dur de travailler derrière une machine. Hein? La machine, tu es fatigué, tu donnes un coup de pied, elle ne réagit pas. Hein? Mais les êtres humains, tu n'as pas besoin de leur donner un coup de pied, ils réagissent assez facilement. Hein? Et le Seigneur m'a dit, écoute, c'est avec eux que je veux te former. C'est à travers les êtres humains que je veux te former, à travers ceux qui disent, c'est m'appartenir que je veux te former. Et parce que si on veut développer le caractère de Christ, c'est ça. Hein? C'est de répondre au plan que Dieu a pour nous. Hein? De pardonner à ceux qui nous font du mal, de prier pour ceux qui nous maudissent, non, de bénir pour ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui nous persécutent. Vous savez, si on n'est pas passé par la nouvelle naissance, il nous est impossible de prier pour ceux qui nous persécutent. On va dire plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour te venger? Quand on est né de nouveau, ça ne peut pas sortir de notre bouche. Parce que ça peut avoir l'effet de boomerang. Ça peut être l'effet de dire, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu as attendu pour ne pas te venger de moi? Et le Seigneur répond quoi? Je t'ai pardonné parce que tu ne savais pas ce que tu faisais. Tu vivais comme bon te semblait. Et tu étais dans mon cœur et tu étais dans mon esprit quand j'étais sur la croix. Et ton nom était dans ma tête et je suis mort pour tes péchés. Quel grand Dieu nous avons, n'est-ce pas? Bien que les événements qui sont survenus dans la vie de Joseph semblent être hors de contrôle, Dieu était toujours en contrôle dans la situation, car voyez-vous, Dieu protégeait Joseph. Regardez comment Dieu le protégeait en étant avec lui. Genèse chapitre 38, verset 2. Dieu était avec Joseph. Dieu est avec vous ce matin. Avez-vous cette assurance que Dieu est avec vous ce matin? Amen. Bon, de son côté, Joseph faisait confiance à Dieu et il faisait confiance à la révélation qu'il avait reçue de Dieu à travers les songes. Frères et sœurs, on a plus que les songes de Joseph, on a la parole de Dieu. Est-ce qu'on fait confiance à la parole révélée de Dieu pour chacune de nos vies? Et on fait comme Joseph, on vit en fonction de la révélation qu'on a reçue de Dieu. Maintenant, si on ne lit pas la Bible, on ne reçoit aucune révélation, hein? Et c'est le problème de notre société, de l'Église aujourd'hui, hein? Les gens, ils commencent le matin avec le pain quotidien, ils sont bourrés pour la journée, hein? Non, hein? Le pain quotidien, c'est une pensée, la parole, c'est une révélation. Dieu veut vous révéler ce qu'il attend de vous. Dieu veut vous partager son plan. Dieu veut vous partager son amour. Dieu veut vous partager l'espérance qu'il a déposée en vous. Joseph aurait pu penser que c'en était fini des songes que Dieu lui avait révélés. Mais ils se sont accomplis au moment voulu par Dieu et de la façon que Dieu l'avait prévu. Genèse chapitre 39, verset 5 à 11, vous lirez ça à la maison. Genèse chapitre 39, verset 5 à 11, au moment voulu par Dieu, ça va s'accomplir. Je suis persuadé que ces songes ont soutenu Joseph pendant la période où il a servi l'esclave. J'en suis persuadé. Frères et sœurs, il en est de même pour nous. Nous devons faire confiance à Dieu et la révélation qui nous a été donnée dans sa parole qu'il nous a donné dans sa parole, en nous dévoilant ce qui surviendrait dans la suite des temps. Et cette parole, eh bien, c'est cette parole, frères et sœurs, qui nous permet de faire confiance à Dieu et de croire que ce qu'il a promis, il accomplira, peu importe ce qui survient dans ce monde. Peu importe. Les gens sont affolés, frères et sœurs, devant ce qui se passe à l'extérieur. Mais l'enfant de Dieu qui a reçu la révélation de la parole, il ne peut pas agir comme une poule sans tête. Il a la parole. Il sait que Dieu n'a jamais manqué une seule de ses promesses. Pourquoi Dieu, en 2016, commencerait à manquer à ses promesses? Non, il nous a tout dévoilé, il nous a tout révélé. Il nous suffit de vivre en fonction de la révélation de Dieu, frères et sœurs. Et le Seigneur dit qu'il revient bientôt. Il nous dit qu'un jour, il mettra fin à toute cette misère qu'il y a sur le monde, frères et sœurs. Et que vous allez régner avec Jésus-Christ dans le royaume de Dieu. Amen! Hey, c'est pas encourageant, ça, ce matin. Oui. Il nous demande simplement une chose. De vivre comme lui nous demande de vivre. D'obéir à sa parole. Je suis en train de vous donner un cours de motivation ce matin. Hein? Je suis en train de vous parler de la vie chrétienne normale. Hein? C'est la vie chrétienne normale. Beaucoup de choses qui surviennent dans la vie n'ont pas beaucoup de sens, mais cela ne change pas le fait que Dieu est en contrôle de tout ce qui nous arrive. Nous avons la promesse de Dieu qui dit que toute chose contribue à ceux qui lui obéissent. Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Le mot « amour » fait référence à ce que Jésus a dit. Hein? Ceux qui m'aiment, c'est ceux qui obéissent à ma parole. Donc, tout concourt, tout contribue au bien de ceux qui obéissent à Dieu. Mes amis, la souffrance légère que nous éprouvons nous prépare une gloire abondante et éternelle, dit l'apôtre Paul, beaucoup plus importante que cette souffrance, car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible dure un peu de temps, mais ce qui est invisible dure éternellement. 2 Corinthiens 4, 17, 18. J'estime, dit Paul, que ce que nous souffrons dans le temps présent ne peut se comparer à la gloire que Dieu nous révélera. L'obéissance au Seigneur peut nous conduire au cœur même d'une terrible tempête. Cela s'est avéré vrai dans la vie de Joseph et cela s'est avéré vrai dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe dit de lui, il a plu à l'Éternel de le briser par la soif. On parle de Jésus, là, hein? De le briser par l'obéissance. Frères et sœurs, si le Seigneur n'a pas épargné le Seigneur Jésus, à combien de fortes raisons vous pouvez être certain qu'un jour ou l'autre, Dieu va vous briser pour vous amener à obéir parfaitement à la parole de Dieu. Et pas parce qu'il vous haït, parce qu'il vous aime et parce qu'il veut faire en sorte de manifester sa puissance et sa présence dans vos vies. On pouvait savoir qu'un simple petit péché, hein, petit péché. Je ne vais pas trop loin, là, je nomme pas de péché, mais je vais y aller avec des petits, des moyens et des gros, alors que pourtant dans la Bible, il n'y en a pas. Hein. Mais un petit péché qui nous semble si insignifiant dans nos vies, hein, ça jette un ombrage tellement sur la puissance que la croix pourrait exercer dans nos vies, hein, que Dieu se retire, quoi. Dieu ne peut pas être complice de nos péchés. C'est impossible. Il a payé le prix, il a un prix tellement grand. Tellement grand, frères et sœurs. Mais Dieu vous aime autant qu'il m'aime, et il m'aime autant qu'il vous aime. Il vous aime autant qu'il aimait Joseph. Et il a un plan pour vous, qui est différent de celui de Joseph, mais le plan qu'il a pour vous, ce plan qu'il a pour vous, frères et sœurs, c'est que Dieu veut se glorifier à travers ce plan. Dieu veut manifester sa puissance et sa présence en vous. Est-ce que vous réalisez ça, frères et sœurs? Que vous n'avez même pas à faire des efforts? Que vous laissez Dieu travailler en vous? Et parce que vous lui obéissez, parce que vous marchez sur le chemin de la sanctification, Dieu, vous voyez Dieu, vous ressentez vraiment la puissance de Dieu en vous, la présence de Dieu en vous, et vous le voyez manifester à travers vous, auprès des autres. Peut-être un esprit de repentance, un esprit de pardon, un esprit de conversion. Frères et sœurs, le Seigneur n'a plus besoin de nos méthodes, hein? L'état d'évangélisation, quand notre cœur n'appartient pas à Dieu, on ne va nulle part avec ça. Hein? On passe une semaine à faire l'évangélisation, on amène une arme au Seigneur, puis on saute de joie. Quoi. On y va, le Seigneur, on pêche à la ligne, alors que le Seigneur veut qu'on lance les filets. Et on a besoin de s'examiner. Dieu a un plan pour vous, Dieu a un plan pour moi, frères et sœurs. Vous savez, quand j'ai eu mon cancer, hein, Dieu a confirmé que j'étais né de nouveau quand j'ai eu mon cancer. C'est fou, hein? J'avais 58 ans, j'en ai 66, moins 8. À 25 ans, j'étais chrétien. Hein? Ouais, tu lis dans la parole, hein, accepte, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Puis bon, repens-toi, convertis-toi et tes péchés seront effacés. C'est là-dedans, quoi. Ça se dépose dans ton cœur. Mais dans la pratique, tu vérifies comment? Dans mon cancer, j'ai senti pour la première fois de ma vie mon Créateur, mon Sauveur, qui me portait dans ses bras, comme un père. Qui me disait, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas. J'ai quelque chose à te montrer. Tu as quelque chose à confesser. Et si tu ne le confesses pas, je vais te rappeler à moi. Ouais. Brisé à travers la souffrance. J'étais un entêté, mais Dieu est plus têtu que moi. Et Dieu m'a brisé à travers la souffrance, dans la maladie. Frères et sœurs, Dieu connaît vos cœurs ce matin. S'il y a des choses qui ne vont pas dans vos vies, que vous lui appartenez vraiment, Dieu va vous briser à travers la souffrance. Pour que vous criez à lui, Dieu, Seigneur, délivre-moi. J'ai compris. J'abandonne ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Je fais le ménage, Seigneur. Et comme j'ai dit la semaine passée, pour F.B. Meyer, quand je ne suis pas capable de donner ce à quoi je suis esclave, bien, je dis au Seigneur, viens le chercher. Et chercher, c'est trop fort pour moi, Seigneur. J'y tiens tellement à ce plaisir. Viens chercher la clé qui va ouvrir le compartiment où tu peux prendre ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Et F.B. Meyer, il dit qu'il l'a fait en prière et il a vu son ministère exploser en puissance. Parce qu'il avait permis de donner le trousseau de clé à Dieu pour entrer dans son cœur et faire un ménage. Frères et sœurs, Dieu veut se glorifier à travers vous. C'est un privilège extraordinaire que vous avez. C'est un privilège extraordinaire que j'ai de proclamer la parole. Mais je vous dis ce que Dieu a mis sur mon cœur de vous parler parce que moi, je vais être doublement redevable à Dieu de ce que je vous ai renseigné. Et c'est le message que Dieu me donne de vous livrer ce matin. Chers amis, à travers nos épreuves, Dieu ne vise pas à nous faire du mal, mais à nous faire progresser dans notre foi. Nous pouvons lui faire confiance, il nous protégera et nous fera progresser dans notre foi au milieu des difficultés que nous rencontrons dans cette vie. Jérémie, chapitre 29, verset 11, pour ceux qui ont leur Bible ce matin. On devrait apprendre ça par cœur, ce verset-là. Hein? Par cœur. Hein? Jérémie 29, 11, cette année. Pour ceux qui sont déprimés, là, matin, méditez-le, mâchouillez-le, apprenez-le par cœur, ce verset. Si vous appartenez au Seigneur, vous êtes déprimé, méditez ce verset par cœur. « Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit le Seigneur. » Projet de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. L'avenir, l'éternité, l'espérance d'être ressuscité. Quelle promotion qui nous attend, frères et sœurs. Quelle promotion. Seigneur, il ne roule pas avec l'argent, c'est avec nos vies. Et il dit, j'ai des projets d'avenir pour toi. Je veux te donner une espérance extraordinaire. Je veux que tu te rappelles de l'espérance que j'ai déposée en toi. L'espérance de la résurrection. J'ai des projets pour toi, pas des projets de malheur, des projets de bonheur, parce que je veux me glorifier en toi. Ben, il y a assez de malheur à l'extérieur, hein? S'il fallait que le Seigneur en rajoute une couche, on est mort, quoi. Hein? Ah oui, hein? C'est pas un beau verset, ça, car je connais, je connais, dit le Seigneur, les projets que j'ai formés pour toi, avant même que tu viennes au monde, avant même que tu m'acceptes, avant même que tu deviennes mon enfant. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. Oh, vous pouvez penser que c'est juste pour Jérémie, hein? Mais l'Ancien Testament nous a été donné à titre d'exemple. Et moi, je pige dans l'Ancien Testament. C'est une promesse, frères et sœurs. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Hey, ça doit avoir boosté Jérémie, ça, hein? J'espère que ça vous booste le matin. Dieu a des projets pour vous. Parce qu'il veut manifester sa puissance à travers vous. Il veut montrer qu'il est présent avec vous. Et non seulement ces projets vont se réaliser, si vous vivez comme Dieu le demande, mais Dieu va vous précéder dans vos projets. Il sera là même avant que vous vous y rendiez. Il va préparer la table. Et vous n'aurez qu'à louer le Seigneur de voir sa puissance se manifester. Parce que vos vies sont en règle avec Dieu. Vous n'avez pas d'efforts à faire. Le Seigneur Jésus, le ressuscité, va les faire pour vous. Hein? C'est notre problème. Hein? On bénit la religion, mais la religion évangélique, ça existe. Hein? Il y a des gens qui viennent à l'église le dimanche matin qui n'ont même pas le goût de venir. Hein? Ils viennent parce qu'ils ont peur de ce que les membres vont dire hein, s'ils ne viennent pas. Il y a des gens qui ne devraient pas prendre la Sainte-Seine et qui la prennent parce qu'ils ont peur d'être jugés, accusés. Ça, c'est de la religion. Hein? T'es mieux de rester chez vous. Hein? Ou t'appelles ton pasteur, tu dis, écoute, j'ai un problème, moi. Mais la religion évangélique, ça existe. Hein? Et à chaque dimanche, quand on franchit cette porte, on doit se poser la question, pourquoi j'ai mis les pieds dans ce lieu ce matin? Je ne viens pas louer le Seigneur pour me mettre en règle avec. C'est parce que je suis en règle avec le Seigneur que je viens le louer. Ça, c'est toute la différence. Hein? Il est beaucoup plus facile de louer le Seigneur en début de culte que de le louer à la fin. Hein? Parce qu'en début de culte, je peux louer le Seigneur et pas être obligé d'être en règle avec lui. Hein? C'est facile de dire, Seigneur, tu es bon, tu es parfait, c'est merveilleux. Même un païen peut dire ça. Hein? Sans être obligé de le reconnaître dans sa vie. Hein? Et quand on entend le message, puis à la fin, on demande aux gens de prier. Ah, c'est plus difficile, hein? Si le Saint-Esprit nous a parlé à travers le message, c'est beaucoup plus difficile d'ouvrir la bouche. Hein? Si ma vie est en règle avec le Seigneur, c'est très difficile de le louer, parce que là, je passe pour un hypocrite. Hein? Pas aux yeux du pasteur. Le pasteur n'est pas capable de lire dans vos cœurs, mais aux yeux de Dieu, hein? Qui est capable de lire dans chacun de vos cœurs ce matin. C'est ça, notre Dieu est en contrôle, toujours en contrôle de la situation. Chapitre 39, versets 2 et 3, Dieu va faire prospérer Joseph. L'Éternel fait avec lui la prospérité et l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Frères et sœurs, est-ce que vos voisins voient que l'Éternel est dans vos vies? Frères et sœurs, est-ce que vos voisins voient que Jésus règne dans vos vies? Bonne question, hein? Je ne suis pas là pour vous condamner ce matin, pour vous juger. C'est des questions que je vous pose. Hein? Je connais des gens qui vivent avec un chrétien depuis 25 ans, ils ne savaient pas qu'il était chrétien. Hein? Est-ce que les gens autour de vous savent que vous appartenez à Jésus-Christ? Le païen de Potiphar ici, il l'a vu. Hey, Joseph, il devait dégager, hein? Il devait dégager quelque chose de particulier, hein? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole, hein? Moi, je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas, hein? Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Et la prospérité, elle va aussi se voir dans l'évangélisation. Vous allez semer avec l'arbre. Mais Dieu va faire prospérer ce que vous aurez semé. Vous allez récolter, vous allez moissonner avec joie. Lorsque Joseph arrive en Égypte, il n'avait plus sa tunique de plusieurs couleurs. Il pouvait avoir perdu sa tunique, mais il avait résolu d'obéir à son Dieu. Jacques dit, on peut y aller là, dans cette fois-ci, Jacques chapitre 1, versets 2 et 3, pour ceux qui ont leur Bible. Moi, je vais le lire en français courant, mais j'ai gardé quelques mots de la version seconde. Pardon. Mes frères, donc il parle pas aux païens, il parle aux frères chrétiens. Ça inclut les sœurs, bien sûr. Considérez-vous comme très heureux, comme un sujet de joie, pas comme un sujet de joie, comme un sujet de joie complète. Quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves, car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la patience. Quels sont ceux qui prient encore pour de la patience depuis des années? Que Dieu leur donne de la patience. Bien, vous êtes en train de demander à Dieu qu'il vous envoie des épreuves, hein? Ben, c'est ce qui est marqué, hein? Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la patience. Vous savez, on peut avoir un paquet d'épreuves qui nous arrivent en pleine figure et dire, oh, j'en ai ras-le-bol, moi j'abandonne tout. Hein. Le Seigneur, il dit, si ta foi résiste à l'épreuve, elle va développer ta patience. Hein. Seigneur, donne-moi de la patience pour les enfants. Attends un peu, les enfants, ils vont te montrer quelques épreuves de ta vie pour que tu développes ta patience. Hein. Montre-moi de la patience envers mon conjoint. Dieu va provoquer des choses hein, pour développer votre patience. Mais aussi, en même temps, si votre foi résiste à l'épreuve, c'est que votre foi progresse dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. La tunique que Jacob avait donnée à Joseph symbolisait la position qu'il occupait au sein de la famille. Cela faisait de lui un surveillant, c'est-à-dire celui qui était en charge de toutes choses, celui qui avait l'autorité au sein de la famille. Et cette autorité qu'il avait ne venait pas d'un quelconque morceau de tissu, cette autorité venait de son caractère. Frères et sœurs, et c'est ce qui manque dans l'Église, c'était quelqu'un qui avait le courage d'agir selon ses convictions. C'était un homme de caractère, un chrétien de caractère, il avait le courage de manifester ses convictions. Combien de fois on est dans un lieu, hein? Et là, je vous dis qu'on ne se fait pas gros, on ne veut pas que personne sache qu'on est chrétien, hein? Bien, ça, je le dis ouvertement, hein? C'est un manque de courage par rapport à nos convictions, hein? Joseph n'avait pas peur de montrer qu'il connaissait le Seigneur. Joseph n'avait pas peur d'obéir au Seigneur, même s'il était dans un pays étranger. Même si c'était le royaume du paganisme. Joseph, c'était un homme qui avait le courage d'agir selon ses convictions. Et c'est ce qui manque dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, particulièrement dans l'Église occidentale. On est tellement bien. Lorsque Joseph perd sa tunique, il n'a rien perdu de ce qui faisait de lui un grand homme. La grandeur de Joseph, elle ne venait pas, des vêtements qu'il portait, mais du fait qu'il vivait en fonction de la décision qu'il avait prise un jour d'obéir à Dieu. Il pouvait porter les vêtements ordinaires d'un esclave, mais c'était quelqu'un qui avait le courage d'agir selon ses convictions, peu importe ce que les autres pensaient, et il était prêt à en payer le prix. Frères et sœurs, voilà les deux choses qui nous empêchent de manifester souvent les convictions qu'on a pour le Seigneur Jésus-Christ. La peur de savoir ce que les autres vont penser de nous, et ne pas être capable, ou ne pas être prêt à en payer le prix. La peur de perdre notre emploi si on ose dire qu'on est chrétien, quand quelqu'un nous demande pourquoi on ne fait pas ça, pourquoi on ne fait pas ça, pourquoi on ne fait pas ci. Si tu perds ton emploi parce que tu es chrétien, tu peux être assuré que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi ailleurs. C'est dur à dire en 2016, là, mais c'est la vérité de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Hein. Tu n'es jamais perdant d'afficher que tu es chrétien. Je ne vous dis pas de bombarder les gens à coup de condamnation, ce n'est pas ça l'Évangile. Hein. Mais simplement de montrer que tu es différent des autres. Quand on te demande d'aller à telle place, quand on te demande d'aller à telle place, tu dis non. On va finir par te demander pourquoi. Mais vous le dites, hein? Allez vous y dire que vous avez des valeurs chrétiennes aujourd'hui. Ça passe de travers dans la gorge de beaucoup de monde. Hein. Joseph était quelqu'un qui avait le courage d'agir selon ses convictions. Peu importe ce que les autres pensaient de lui, il était prêt à payer le prix. Frères et sœurs, êtes-vous prêts à avoir le courage d'agir selon vos convictions? Peu importe ce que les autres pensent de vous. Peu importe le prix qu'il y aurait à payer. On a un exemple, on a un modèle. On a Joseph. Je ne prends pas Jésus parce que les gens, quand tu prends Jésus, tu dis « Oh, mais c'était Jésus ». Je descends un peu plus bas, je prends Joseph. Quoi. Son nom commence par J aussi, mais je prends Joseph, un être humain, quoi, qui est venu au monde avec une nature pécheresse. Hein, Jésus était sans péché. Mais je ne prends pas Jésus, parce qu'on me dit toujours, hein, tu prends Jésus, c'est pas pareil. Mais je prends Joseph. Là. Ouais. Alors, Joseph, en simple être humain, il n'avait pas peur de dire qu'il était chrétien quand il devait le dire. Et Joseph ne marchait pas par la vue, parce qu'à partir du moment où il est descendu dans la citerne, à partir du moment où il était vendu aux Ismaélites, à partir du moment où il était sur la place du public, vendu comme esclave à Potiphar, il devait se demander, hein, heureusement qu'il marchait par la foi, parce qu'il aurait dû se demander où sont rendus mes deux songes. Seigneur, tu m'as-tu abandonné? Mais Joseph croyait dans les promesses de Dieu, c'est ce qui faisait sa force. peu importe ce qui survient, peu importe ce qui survient, Seigneur, peu importe dans la citerne, tu es là. Peu importe que je roule en direction de l'Égypte, tu es là, Seigneur. Et tu me devances là-bas, sur la place du marché, Seigneur. Et tu vas être en prison avec moi, Seigneur. Même si je suis accusé injustement d'un péché épouvantable, Seigneur. Même si je suis accusé d'un péché condamné parce que je t'ai obéi. Seigneur, je sais que tu es là. Et je sais que tes promesses vont se réaliser dans ma vie. Frères et sœurs, est-ce qu'on a suffisamment de foi ce matin pour croire que les promesses que Dieu nous accorde dans sa parole, elles vont se réaliser dans nos vies? C'est pas juste pour Joseph, c'est pas juste pour Jésus, c'est pas juste pour Paul, ni Pierre, Jean. Mais c'est pour vous. Et c'est pour moi. Nous devrions avoir le même témoignage. Nous avons besoin de montrer à ceux qui nous entourent que nous sommes des gens qui avons le courage d'agir selon nos convictions, peu importe ce qu'on peut penser de nous, et être prêts à en payer le prix. J'ai témoigné de ma conversion à un coach de basket. Il ne m'a jamais pu reparler. C'est son problème. Je pensais que ça m'empêchait de dormir, mais non. Lui, ça doit l'empêcher de dormir, quoi. Parce qu'il ne veut pas abandonner son péché. Je connaissais son péché, hein. Mais ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, hein. Nous devrions avoir le même témoignage, frères et sœurs. Certaines personnes agissent différemment selon l'endroit où vous les rencontrez. Vous les rencontrez à l'église, elles agissent d'une façon. Vous les rencontrez en ville, dans le centre-ville, et vous vous retrouvez avec quelqu'un de totalement différent. Nous avons besoin d'être les mêmes personnes, peu importe où nous allons. Nous devrions nous efforcer de bien agir en tout temps. Nous devrions prendre la décision d'adopter une bonne attitude et le caractère de Christ en tout temps. Et si on prend cette décision, il y a des endroits que les gens ne nous inviteront plus. Mais par contre, il y a d'autres endroits où personne ne nous a invités qu'on va y aller. Ça va être pour la gloire de Dieu. Il y a un tri qui va se faire. Hein. Lorsque Joseph est arrivé en Égypte, il a pu prendre plusieurs chemins. Il aurait pu adopter les us et coutumes des Égyptiens. Il aurait pu abandonner son Dieu et adopter la religion polythéiste des Égyptiens. Mais Joseph a décidé, lui, en tant que chrétien, de ne pas faire de compromis et de vivre selon la parole de Dieu. Potiphar a pu acheter Joseph, mais Joseph appartenait toujours à Dieu. Il avait déjà pris sa décision, peu importe ce qui surviendrait dans sa vie, je continuerai à vivre, à obéir à Dieu. Cela n'avait aucune différence pour Joseph, s'il était dans la maison de son père, dans une citerne aux mains des marchands d'esclaves ou dans la maison de son maître. Joseph avait résolu dans son cœur qu'il allait toujours obéir à Dieu. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Je vous invite à lire les 12 chapitres et demi qui parlent de Joseph. Vous ne trouverez aucun péché mentionné dans la Bible sur Joseph. Je vous dis pas qu'il est au monde sans péché. Allez pas dire ça à personne. C'est pas ce que je dis. Mais la Bible n'a pas relevé aucun péché dans la vie de Joseph. Comme Joseph, vous et moi, nous avons besoin d'établir des limites dans nos vies. Nous avons besoin d'établir dans notre cœur qu'il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire parce qu'elles sont contraires à ce que Dieu exige de nous. Ensuite, lorsque nous ferons face à une situation, nous n'aurons pas à nous demander si nous pouvons nous permettre de passer ou non à l'action parce que nous aurons déjà réglé cela dans notre cœur auparavant. Alors la question est réglée, une fois pour toutes. Il est écrit au verset 2 ici que non seulement le Seigneur était avec lui, mais que tout ce qu'il faisait lui réussissait. Puis il est écrit au verset 3 que Potiphar se rendit compte que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Certains frères et sœurs peuvent avoir regardé la promotion de Joseph dans la maison de Potiphar comme étant de la chance. Certains devaient se dire, quel homme chanceux! Je peux vous dire une chose, frères et sœurs, que la chance n'a rien à voir avec le succès que connaissait Joseph. En fait, si le monde croit à la chance, l'enfant de Dieu sait que dans le royaume de son Père céleste, la réussite n'est pas basée sur la chance, mais sur l'obéissance. Amen. Amen. Sur l'obéissance, frères et sœurs. La chance, ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Le hasard, ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Il n'y a personne qui devient pasteur par chance. Heureusement, parce que je serais très malchanceux. Mais on pourrait même voir ça comme une punition. Hein? Il faut être appelé pour être pasteur. Hein? Il ne faut pas voir ça comme une profession. Hein? C'est vraiment un appel. Hein? On a besoin de la grâce de Dieu du début jusqu'à la fin. Hein? Je ne fais pas juste préparer un message le dimanche. Hein? Je vais vous montrer ce qui se passe durant la semaine. Hein? Il faut vraiment être appelé. Et Dieu nous donne la grâce d'accomplir l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Parce que ce n'est pas mon Église. Je ne perds pas de vue que c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est lui qui en est la tête. Oui, il fait juste m'utiliser pour diriger le troupeau. C'est lui qui en est la tête, frères et sœurs. Et mes épaules sont beaucoup plus flottantes à ce moment-là. Joseph prospérait et réussissait parce que Dieu le bénissait. Joseph prospérait parce que Dieu voyait, Dieu voyait en Joseph un homme sur qui il pouvait compter pour accomplir sa volonté. Ce que certains appellent de la chance dans ce qui arrive dans la vie d'une personne ne peut être rien d'autre que le résultat de quelqu'un qui s'efforce de marcher dans les voies de Dieu. Peut-être que Dieu bénit certains plus que d'autres parce qu'ils manifestent cette sorte de caractère qui démontre qu'ils appartiennent à Dieu. Peut-être qu'ils reçoivent ces bénédictions parce qu'ils sont intègres devant Dieu. Peut-être qu'ils sont bénis parce que Dieu peut leur faire confiance, qu'ils lui obéiront, peu importe ce qui surviendra dans leur vie. Frères et sœurs, Joseph se trouvait dans une situation extrêmement difficile, mais il continuait à vivre en obéissant à Dieu. Et il a vu sa vie être bénie par le Seigneur. Peu importe ce qu'on lui demandait de faire, que ce soit comme esclave ou comme homme libre, il fut fidèle dans tout ce qu'il demandait. Fidèle à ses convictions, il demeurait fidèle à son Dieu, à son maître Potiphar. Par conséquent, Dieu a béni sa vie et son travail, frères et sœurs. Il y a deux choses que je voudrais pas oublier de vous rappeler ce matin. Ce n'est pas parce que vous allez vivre des épreuves et des difficultés que cela signifie que Dieu ne vous bénit pas, que Dieu vous en veut. Au contraire, réjouissez-vous. C'est que Dieu a toujours un œil sur vous. C'est magnifique. C'est que Dieu n'a pas détourné son regard de vous, il a toujours un œil sur vous. Vous lui appartenez. Il vous accompagne à chaque jour. Il est possible que vous ne voyez pas agir, vous ne le voyez pas agir en votre faveur, mais faites-lui confiance. En son temps, il manifestera sa présence et sa puissance dans vos vies et à travers vous. Deuxièmement, la deuxième chose que je voudrais qu'on retienne, Joseph a agi correctement dans la terrible situation dans laquelle il se trouvait. Il a démontré la bonne attitude à avoir au milieu de ce qu'il vivait. Ainsi devrait-il en être de même pour nous. Frères et sœurs, le secret qui nous permet de garder notre joie dans les moments difficiles réside dans la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Vous avez peut-être entendu parler de ces deux petites souris qui étaient tombées dans un seau de lait frais. Qui connaît l'histoire? Ah, je vais vous la raconter. L'une était tellement bouleversée qu'elle a rapidement perdu tout espoir de s'en sortir. Elle a coulé et s'est noyée. L'autre essayait de toutes ses forces de s'en sortir. Elle nageait, elle se débattait tellement que le lait s'est transformé en beurre et ainsi elle a pu sortir sauf du seau. Le secret réside dans la manière dont vous gérez votre vie, soit que vous en prenez le contrôle ou soit qu'elle finira par vous contrôler pour votre plus grande perte. Au 17e siècle, le prédicateur John Bunyan fut jeté en prison pour avoir prêché l'Évangile parce qu'il n'avait pas de diplôme. Il passa 12 ans en prison parce qu'il ne voulait pas promettre devant les tribunaux qu'il ne prêcherait pas si on le libérait. Vous imaginez? Ça, c'est quelqu'un qui agit selon ses convictions. Mais regardez bien la bénédiction maintenant. Et la bénédiction de John Bunyan au 17e siècle, vous y goûtez encore aujourd'hui? Il aurait pu être découragé d'être emprisonné aussi longtemps, mais John Bunyan était un homme de caractère et quelqu'un d'intègre. Il avait le courage d'afficher ses convictions et de vivre en fonction de ses convictions. Dans sa cellule, il avait un tabouret qui avait 3 pieds. Il enleva un des pieds du tabouret pour fabriquer une flûte avec laquelle il a commencé à jouer des cantiques chrétiens. Pendant son séjour en prison, il a écrit « Le voyage du pèlerin », qui est une allégorie de la vie chrétienne. C'est le livre qui est le plus vendu dans le monde, qui a été le plus vendu dans le monde après la Bible. Un homme qui agit selon ses convictions, Dieu ne l'a pas seulement béni au 17e siècle, mais au 18e, 19e, 20e, ça continue encore aujourd'hui. « Le voyage du pèlerin », pour ceux qui n'ont jamais lu, c'est un livre que vous devez lire. Vous devez lire, après la Bible, bien sûr, mais vous devez lire. John Bunyan aurait pu tout abandonner, mais au lieu de cela, il a utilisé les épreuves qu'il vivait pour faire en sorte que Dieu soit glorifié et Dieu l'a béni. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, le Seigneur cherche des hommes et des femmes de foi qui ont le courage d'afficher leurs convictions et qui vivent en accord avec leurs convictions. Dans le camp de la mort de Ravensbrück, dirigé par les nazis, une jeune femme du nom de Corrie ten Boom fut forcée à endurer les pires atrocités que vous pouvez imaginer. Et d'autres encore, que vous ne pouvez même pas soupçonner. Elle fut privée de nourriture, battue et maltraitée. Elle fut forcée de vivre avec les poux, les puces et les rats. Elle fut témoin de la mort de sa plus jeune sœur qui avait une santé fragile. Elle a vu des milliers de juifs et de sympathisants juifs quitter le camp par les cheminées des faux crématoires. Évidemment qu'elle ne comprenait pas pourquoi, avec ces milliers d'autres femmes, elle avait été forcée d'endurer de telles souffrances et une telle angoisse. Mais Corrie ten Boom, qui portait le numéro de détenu 66-730, avait résolu dans son cœur que tant et aussi longtemps qu'elle serait dans ce camp, elle ferait en sorte de manifester au maximum qu'elle appartenait à Jésus-Christ. Dans la baraque numéro 28, elle commença une étude biblique clandestine et elle encouragea d'autres femmes à faire comme elle pendant ces années difficiles. Elle finira éventuellement par être libérée. Regardez la suite. Plusieurs auraient pu avoir le cœur rempli d'amertume et cherchaient à se venger à cause de tout ce qu'elle avait vécu. Mais après la Seconde Guerre mondiale, Corrie ten Boom sera utilisée par le Seigneur d'une manière puissante. Elle portera le message de Christ partout dans le monde et des dizaines de milliers de personnes vont non seulement apprendre à connaître la puissance de la grâce de Dieu, mais à découvrir le pardon de Dieu. Parce qu'un jour, elle a été placée, un jour, alors qu'elle venait d'apporter un message, elle a été placée devant celui qui l'a maltraitée, qui l'a persécutée, qui l'a battue dans ce camp. Il est allé le voir, il lui a donné la main, il a dit, c'est moi qui vous a fait subir toutes ces maltraitances. Et là, si Jésus m'a pardonné, dit-elle, qui suis-je pour ne pas pardonner à mon pire bourreau? Frères et sœurs, nous, dans le monde dans lequel on vit, le petit peu de persécution qu'on subit, le petit peu de moquerie qu'on subit, il n'y a personne dans cette salle ce matin qui peut se permettre de ne pas pardonner à personne le mal qu'on lui a fait. Sinon, c'est se placer au-dessus de l'autorité de Dieu, c'est se placer au-dessus de la grâce de Dieu qui, lui, veut bien pardonner à quiconque se repent de ses péchés, parce que Dieu veut que tous parviennent au salut. On va arrêter, vous regarderez ça sur Internet, sur le site. Je vais simplement terminer avec Joseph. Il en sera de même avec Joseph lorsqu'il rencontrera ses frères 13 ans plus tard, à 30 ans. À travers les épreuves qu'il avait vécues, il avait goûté à la grâce de Dieu, il avait appris à pardonner. Il leur dira, tourne avec moi dans Genèse chapitre 50, verset 20 à 21. Il rencontre ses frères, son père meurt, les frères ont peur que Joseph il se venge. Mais Joseph, il a un cœur différent de ses frères. Joseph, il connaît le Dieu, le Tout-Puissant. Et regardez ce qu'il dit ici. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai. » On pourrait mettre entre guillemets, malgré tout le mal que vous m'avez fait, malgré le fait que vous m'avez mis dans le fond de la citerne, malgré le fait que vous m'avez vendu, malgré le fait que vous aviez complété avant de me vendre, de me tuer. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et regardez la fin, ça c'est extraordinaire. Ça c'est quelqu'un qui a rencontré l'amour de Dieu. Et il les consola en parlant à leur cœur. J'espère que Dieu, à travers ce message ce matin, a parlé à votre cœur. J'espère que vous êtes consolés de savoir que Dieu a un plan pour vous, de savoir que ce plan, Dieu l'a prévu depuis toute éternité pour vous. Dieu ne vous a pas sauvés pour vous rester assis dans une église à attendre que le Seigneur Jésus revienne. Dieu vous a donné des dons. Vous êtes des membres du corps de Christ. L'orteil est aussi importante que l'épaule. Le petit pouce, le pouce est important. Enlever le pouce, vous allez avoir de la difficulté à tenir un verre. Enlever la grosse orteille, vous allez avoir de la difficulté à garder l'équilibre. Chaque membre est important. Vous êtes tous importants. On est tous au même niveau. Tous au même niveau. J'espère que vous êtes consolés par le fait que Dieu a quelque chose de prévu pour vous. Tout ce qui vous demande, frères et sœurs, c'est de lui consacrer votre vie. C'est tout ce qu'il nous demande. On l'a chanté tantôt. Voici une dernière parole d'encouragement. Peu importe jusqu'à quel point votre vie devient de plus en plus difficile à vivre, si vous appartenez à Dieu, si vous êtes né de nouveau, la même chose que nous avons dit concernant Joseph est aussi vraie pour vous. Et l'Éternel était avec lui et le fit prospérer. Et l'Éternel est avec vous. Il veut vous faire prospérer. Il veut faire prospérer sa parole. Il veut vous faire prospérer dans votre foi. Il veut que vous deveniez des enthousiastes parce que vous croyez aux promesses de la parole. Frères et sœurs, les premiers chrétiens de l'Église primitive, ils ne criaient pas dehors, je crois en Jésus-Christ crucifié, je crois en Jésus-Christ ressuscité. Parce que si Jésus est crucifié et pas ressuscité, tu n'as pas de message à dire. Tu te tais. Mais ils croyaient en la résurrection des morts. Et ils ont été prêts à mettre leur tête sur le billot. Ils ont été prêts à mourir tous en martyrs parce qu'ils croyaient que Jésus-Christ était ressuscité. Parce qu'ils croyaient que Jésus-Christ reviendrait un jour. Parce qu'ils croyaient que Dieu créerait toute nouvelle chose. Nouvelle terre, nouveaux cieux, et qu'il règnerait avec Jésus-Christ sur cette nouvelle terre et ce nouveau ciel. Le Seigneur ne nous demande pas de mettre notre tête sur le billot, de mourir en martyr. Il nous demande simplement de faire en sorte que nous vivions selon nos convictions. Que nous agissions en fonction des convictions que nous avons. Nous avons placé notre foi un jour en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité pour nous. Il est vivant. Son esprit habite en vous. Et le Seigneur, il veut manifester sa puissance à travers l'esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Pas à travers vous, à travers l'esprit qui habite en vous, frères et sœurs. Pour que les gens reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Amen. Le Seigneur vous aime. Que ce message puisse vous avoir fortifié ce matin. Et non découragé. En vous rappelant que Joseph, c'était un être humain comme vous et moi. Et Dieu a accompli de grandes choses à travers lui. Et Dieu veut accomplir de grandes choses à travers vous. Là où il vous a placé, là où vous habitez, Dieu veut accomplir encore de grandes choses à travers vous. Parce que sa puissance n'a pas diminué. Il est encore aussi puissant aujourd'hui pour convaincre de péché, de justice et de jugement quiconque entend sa parole et vienne à la connaissance de Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever. On va chanter un cantique. On va demander aux préposés, aux offrandes pour la mission de se préparer. Le 317 sur les ailes de la foi.
C'est là ma place près.
On va demander à deux, trois personnes de prier avant de terminer, avant de chanter la dernière strophe. Vous prenez cette liberté de pouvoir prier, soit en fonction du message ou en fonction de d'autres choses que Dieu vous a parlé. Prenons quelques instants. La dernière strophe, terminer ce culte. Quand dans l'étendue immense où Jésus tu paraîtras, c'est encore dans ta par ta présence que tu nous attireras. Chantons ensemble. Pas oublier rendez-vous à 15h cet après-midi pour aller à la Maison des Moulins. Ceux qui nous visitent pour la première fois, bien, vous avez du café en bas qui vous attend. On peut continuer ce moment de communion fraternelle. Et je vous dis, allez dans la paix, dans la joie du Seigneur. Et le peuple de Dieu dit... Amen.